Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Soraya Mechtou, membre de la Direction nationale de Génération, élue municipale de l'île Saint-Denis et candidate aux élections régionales en Seine-Saint-Denis. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière, merci beaucoup de m'avoir invité.
Alors Soraya Mechtou, avant de parler de votre candidature aux élections régionales et de l'actualité, est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours personnel et politique ?
Alors sur mon parcours personnel et politique, moi j'ai eu 30 ans au mois de décembre, et sur ces 30 ans, ça fait bien 15 ans que je milite. Je suis issue d'une famille qui est très militante, donc je vous avouerai que j'ai un peu baigné dedans. Mais mon premier vrai engagement en responsabilité, ça a été dans le syndicat étudiant de mon université à Paris 8 en 2008, du coup pendant la première crise financière que j'ai pu connaître. Et j'ai continué cet engagement jusqu'à peu près 2012, où ensuite, suite à quelques déboires estudiantins, j'ai trouvé un travail à temps plein et je suis passée à autre chose quelques années. Puis je suis tombée en amour de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai trouvé là une voie militante, puisque c'est une économie de transformation sociale. J'ai ensuite remis les gants pour Benoît Hamon lors de la primaire de 2017. Et depuis, je ne les ai plus enlevés. J'ai bien sûr toujours continué mon parcours syndicaliste en adhérant toujours dans mon syndicat, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'étudiante. Et dans l'économie sociale et solidaire, j'ai commencé par un projet très intéressant. J'étais la première salariée d'une SIC dirigée par des étudiants. Donc SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif, donc une COP, qui s'appelait Solidarité étudiante et qui mettait en place des services à destination des étudiants, notamment les plus précaires. Donc c'était des services de restauration sur les universités. Qui existe encore, hein, de l'intermédiation de locatif, c'est-à-dire aider à l'accès au logement des étudiants, notamment en colocation, à des tarifs très réduits. Mettre en avant et incuber des initiatives étudiantes et solidaires. Et enfin, le dernier né, en tout cas me concernant, c'est en 2015, quand j'ai commencé à travailler sur le projet Espace, donc qui est un tiers-lieu dans le 13e arrondissement de Paris, qui a ouvert en 2017. Donc j'ai cofondé ce lieu-là avec d'autres amis coopérateurs et coopératrices, dont aujourd'hui, en fait, on entend beaucoup parler, notamment dans le cadre, malheureusement, dans le cadre des distributions alimentaires envers les étudiants précaires.
Alors justement, on va parler tout à l'heure de l'économie sociale et solidaire, un sujet que vous portez depuis des années et j'imagine que vous allez porter lors de ces élections régionales. Parlons de cette précarité étudiante qui est très inquiétante, puisque vous avez créé ce tiers-lieu étudiant dans le 13e arrondissement de Paris. Selon vous, qu'est-ce que pourrait faire l'État, mais aussi la région, pour venir en aide aux étudiants, je dirais d'abord sur le court terme?
Eh bien, la toute première chose, c'est de considérer la jeunesse et la voix qu'elle porte. C'est-à-dire que quand on voit des étudiants ou des jeunes de manière générale défiler pendant des mois, des semaines sur les plateaux télé, nous lancer des alertes sur leur désespoir, sur la précarité, sur le fait qu'ils sont... on a eu des vagues de suicides d'étudiants. Et que la seule réponse qu'apporte la ministre, c'est de dire que le problème dans les universités, c'est l'islamo-gauchisme. Je pense qu'on a un gros problème de considération de la parole que peut porter la jeunesse. Donc d'abord, il faut les écouter, ces jeunes. Et puis, si on les écoute un peu, on se rend compte qu'ils ont besoin de moyens. Pour vivre, pour faire leurs études ou pour choisir leur carrière, leur insertion professionnelle, pour se lancer. Et donc je nierais mes engagements précédents, et surtout je ne serais pas à Génération si je vous parlais pas du revenu universel d'existence, du revenu universel d'existence à mettre en place pour les jeunes de manière très très urgente. Puisqu'aujourd'hui, nous avons un gros problème de précarité et nous avons besoin de laisser... De sauver cette génération qui est en train de sombrer sous les sirènes de la crise sanitaire, économique et sociale et environnementale. Donc ça, c'est pour moi la mesure d'urgence que devrait aujourd'hui porter le gouvernement. La région, elle peut déjà commencer à lancer des expérimentations sur ce dossier de fonds, et puis elle peut aussi agir sur tous les pans des politiques publiques de la jeunesse qui permettraient aujourd'hui de l'aider à marcher vers son autonomisation. Typiquement, elle peut agir sur le logement, elle peut agir sur l'insertion professionnelle, sur la formation tout au long de la vie. Aujourd'hui, la région, notamment en Île-de-France, qui est une des régions les plus jeunes et les plus dotées en établissements, notamment d'enseignement supérieur, elle a les armes et elle a les leviers pour mettre en place des politiques d'aide aux jeunes.
Vous êtes en train de nous parler du revenu minimum d'existence. Finalement, est-ce que la crise sanitaire n'a pas donné raison à Benoît Hamon, puisque le gouvernement sponsorise en quelque sorte une partie de la population qui ne travaille pas en raison de cette crise sanitaire? Est-ce que c'est une façon finalement de mettre en œuvre ce revenu minimum sans le dire?
Il y a une grande, grande, grande différence entre un revenu minimum, et notamment celui imaginé par le gouvernement, et le revenu universel d'existence tel que porté par Benoît Hamon en 2017. Il y en a un qui est là pour pallier sur certaines catégories de manière temporaire une grande précarité, mais finalement ça s'appelle une aide sociale. Et puis il y en a une autre qui est un revenu permanent auquel tout le monde aurait droit, qui est le revenu du travail de nos ancêtres. Et de l'évolution que nous avons eue, et donc de ce capital travail qui nous permet aujourd'hui de pouvoir avoir ce revenu universel, et pas minimum, mais universel d'existence, qui permette à chacun d'être libre, libre de créer, libre de travailler, libre de monter son activité. Ça n'a rien à voir pour moi avec le revenu minimum. Par contre, là où vous avez raison, c'est que le revenu universel d'existence progresse dans les mentalités, qu'il y a aujourd'hui notamment quelques confrères ou consoeurs à vous qui en 2017 étaient absolument pas d'accord avec ce concept de revenu universel d'existence, qui aujourd'hui reviennent sur leurs propos et disent qu'effectivement ce serait une des mesures qui pourrait nous permettre de relever la tête aujourd'hui.
Soraya Mechtou, vous êtes très impliquée dans l'économie sociale et solidaire. J'aimerais d'abord que l'on rappelle ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples d'entreprises régies par ce statut ?
L'économie sociale et solidaire, c'est tout cet ensemble d'entreprises ou de structures qui répondent à ces grands principes. C'est une économie au service de l'utilité sociale et des territoires. C'est une économie qui est démocratique. Et enfin, c'est une économie qui est durable et non lucrative. Tout ça, effectivement, c'est des vraies entreprises qui créent de l'emploi, qui créent des richesses sociales et qui les partagent différemment. Alors, ça peut être nos associations, nos coopératives, nos mutuelles. Je rappelle que l'économie sociale et solidaire est composée à 80% du secteur associatif. Moi, j'ai 1000 exemples d'initiatives sociales et solidaires en tête qu'on pourrait soutenir quand on sait que aujourd'hui, toute structure, les associations culturelles, les associations sportives font partie de l'économie sociale et solidaire. Les associations de lutte contre les violences faites aux femmes font partie de l'économie sociale et solidaire. Mais peut-être pour faire des focus sur deux initiatives qu'on pourrait soutenir. Pour parler un peu de ma ville, hein, puisque je suis aussi élue municipale à Lille-Saint-Denis, nous avons une belle initiative d'ESS qui s'appelle Lilo, qui pratique la dépollution des terres par la plantation de fleurs et qui crée plein de métiers autour de la transition écologique, et notamment ces métiers-là, elle est créée par l'insertion. Cette structure, elle est bénéfique sur plusieurs points, c'est-à-dire que non seulement elle a un impact environnemental positif, en plus de ça, elle crée de nouveaux emplois, et cerise sur le gâteau, ces nouveaux emplois, elle les crée de manière solidaire, elle les crée par l'insertion, et donc elle a une vraie assise et un vrai impact positif sur son territoire. Le deuxième type d'activité, et c'est plutôt un modèle dont j'aimerais parler, puisque on parle beaucoup d'ubérisation, on parle beaucoup de fragilisation des travailleurs indépendants, et c'est vrai que l'économie sociale et solidaire a tendance à toujours vouloir proposer des alternatives et des réponses aux maux nouveaux de notre société. Et donc moi j'aimerais vous parler des coopératives d'activité à l'emploi, qui sont aujourd'hui un modèle coopératif qui permettent aux auto-entrepreneurs de se réunir et de créer leur propre structure pour se permettre de pour permettre d'être mis en sécurité sociale, mais aussi de coopérer et d'échanger entre eux les différentes ressources dont ils disposent. Pour moi, c'est vraiment une planche de salut pour l'auto-entrepreneuriat et la mise en sécurité sociale des auto-entrepreneurs, autant que le gouvernement ne prendra pas ses responsabilités vis-à-vis de ça. Et vraiment, ces coopératives d'activité à l'emploi, aujourd'hui, il faut les aider, il faut les financer, il faut leur trouver des locaux, parce qu'elles ont vraiment une incidence bénéfique sur la mise en sécurité sociale des travailleurs indépendants, notamment les plus précaires.
Mais pour que l'on se comprenne bien, l'économie sociale et solidaire, ce sont des entreprises qui veulent tout de même gagner de l'argent, c'est simplement qu'elles ne le répartissent pas de la même façon que dans les entreprises classiques.
Alors, elles vont gagner de l'argent, mais elles ne vont pas être lucratives ou quasiment pas lucratives. Dans le sens où, effectivement, quand vous répartissez votre excédent quand il y en a à la fin de l'année, par exemple dans les coopératives, il y en a une partie que vous mettez en réserve, donc que vous mettez de côté pour assurer la pérennité de la structure en cas de coup dur, et ça a été le cas hein, pour certaines coopératives qui ont pu bénéficier de ce modèle-là pour se remettre sur les rails lors de moments difficiles. Et puis ensuite, ils sont répartis entre les différents sociétaires en fonction du type de coopérative, hein, si c'est une SCOP, une société coopérative ouvrière de production. Donc c'est pas une structure effective qui ne fait pas d'argent, mais c'est une structure qui ne répond pas aux mêmes objectifs que les entreprises dites d'économie classique. Et par conséquent, elle n'a pas le même mode de fonctionnement et pas les mêmes objectifs de résultats.
Ce sont des entreprises finalement qui peuvent résister davantage à la crise, à la financiarisation de l'économie ?
Alors ce sont des entreprises qui sont non financiarisées. Elles sont résilientes. Et par ailleurs, on l'a déjà vu en 2008, hein, où l'économie sociale et solidaire était beaucoup plus résiliente que l'économie dite classique. Pour autant, ça ne peut pas durer toujours. Ce que j'entends par là, c'est que on s'est dit tout à l'heure que l'économie sociale et solidaire n'était pas une structure avec les mêmes objectifs qu'une entreprise classique. Pour autant, on lui demande de répondre aux mêmes critères sur les financements. On lui demande de rembourser les mêmes prêts sur les mêmes conditions, avec les mêmes critères qu'une entreprise classique, alors que toutes les deux ne poursuivent pas le même but. Et donc malheureusement, si on n'adapte pas nos modes de financement et si on ne fait pas des financements conséquents dédiés spécifiques à l'économie sociale et solidaire et à son mode de fonctionnement, on risque de heurter de plus en plus l'économie sociale et solidaire à l'économie financiarisée, alors qu'elles ne font pas partie du même monde.
C'est donc là toute l'importance d'être engagé en politique, Soraya Mechtou.
Exactement, c'est toute l'importance, c'est d'aller porter des politiques publiques qui aujourd'hui sont bénéfiques aux structures qui nous sont bénéfiques à nous les citoyens, puisque l'économie sociale et solidaire, c'est l'économie de l'utilité sociale et environnementale.
La région est en charge des lycées Soraya Mechtou. Est-ce qu'il faudrait faire connaître davantage les filières de l'économie sociale et solidaire aux lycéens? Vous, je ne sais pas comment vous avez eu accès à ce monde.
Alors moi, j'ai eu accès à ce monde plutôt par la voie militante, et c'est plutôt dans les cadres militants pour la première fois que j'ai pu entendre parler d'économie sociale et solidaire, mais absolument pas au lycée, jamais au lycée. Pour autant, on pourrait, il existe déjà des structures de sensibilisation à l'économie sociale et solidaire dans les lycées, je pense notamment à mon ESS à l'école, qui est un projet qui est porté par l'ESPER. Ces structures, elles existent, mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de subventions pour les structures de sensibilisation. Et sur la sensibilisation, l'économie sociale et solidaire ne passe pas à travers. On a très peu de fonds pour aller sensibiliser dans les lycées. Sur la manière dont on peut faire aussi de l'économie sociale et solidaire dans les lycées, c'est en la faisant expérimenter. Et c'est là la force de l'économie sociale et solidaire, c'est que c'est aussi une économie, moi j'aime dire que c'est l'économie démocratisée qui appartient à ses citoyens et à ceux qui la font. Et donc on peut l'expérimenter dans les lycées en soutenant par exemple des projets comme les maisons des lycéens, qui sont en fait les anciens foyers lycéens, mais qui sont aujourd'hui gérés par les lycéens et qui permettent de créer des expérimentations, par exemple si on leur permet de dégager de quoi salarier une personne, de quoi accompagner, qui pourrait accompagner les différentes expérimentations qui auraient lieu dans les maisons des lycéens, etc. Ou encore les CJS, CJM, donc coopératives de jeunes majeurs, qui sont des coopératives d'inspiration québécoise et qui permettent aux jeunes de se réunir pendant un temps, pendant une année, pendant les vacances aux lycéens, de se réunir pour porter un projet, certes économique, mais surtout utile socialement et environnementalement. de manière collective.
Est-ce que cette économie sociale et solidaire peut être aussi une réponse à la crise du chômage ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois à créer dans ce secteur, des emplois, je dirais, auxquels on ne prête pas attention pour l'instant ? Il y a des besoins auxquels vous pensez certainement ?
Bien sûr. Alors, il y a les besoins déjà existants, puisque il ne vous aura pas échappé que nous sommes en pleine crise sanitaire et qu'on l'a déjà vu pendant le premier confinement. L'économie sociale et solidaire a été très, très, très présente, puisque c'est elle qui organise les initiatives solidaires, notamment autour de la donation alimentaire, de lutte contre les grandes précarités, et donc qui a été très mobilisée pendant cette crise Covid. Il s'agit aussi de nos entreprises de l'action sociale et du médico-social qui ont fait partie des premières lignes et qui font encore partie des premières lignes. Je pense notamment aux EHPAD de l'ESS qui ont dû être très solides pendant tout ce confinement. Donc il y a des choses déjà existantes qui ont besoin effectivement eux, ils ont besoin de créer plus d'emplois. Est-ce qu'on leur en donne les moyens ? Ça, c'est autre chose. Et donc, c'est aussi ça, une des choses qu'il faut mettre en place en arrivant à la région Île-de-France, c'est des aides au poste pour ces structures qui sont utiles socialement et environnementalement, qui ont besoin de se développer, qui ont besoin de se professionnaliser, qui créent de l'emploi sur les territoires quand ils peuvent en créer, mais qui aujourd'hui n'ont pas les moyens et sont pris par l'urgence. Et puis, il y a aussi, effectivement, ces nouveaux métiers de l'économie sociale et solidaire, alors pas toujours, mais qui ont fortement vocation à l'être. On parlait des métiers de la transition écologique tout à l'heure, mais il y a aussi des nouveaux métiers qui se sont créés ces dernières années. Par exemple, on parle beaucoup de tiers-lieux. Gestionnaire de tiers-lieux était un métier qui n'existait pas, je pense, il y a encore 10 ans. Et donc, c'est aujourd'hui quelque chose, un métier pour autant qui prend de plus en plus d'ampleur. Quand on parle aussi des marchés publics et de l'accès, alors là, on rentre un peu dans le technique et j'en suis désolée, mais dans les marchés publics, il y a normalement des clauses sociales, donc des gens, des heures qui sont données aux gens qui travaillent dans l'insertion par l'activité économique. Mais pour ça, il faut des personnes qui facilitent ça sur les territoires. Donc il y a le métier de facilitateur de clauses qui est en train d'émerger. Oui, remettre l'utilité sociale et environnementale au cœur d'une société, c'est un vrai projet de société. Et donc ça crée de l'emploi et ça crée des nouveaux emplois et peut-être des emplois plus vertueux et qui ont plus de sens. Et là, je reboucle avec la jeunesse tout à l'heure. La jeunesse, aujourd'hui, elle est en crise de sens et elle a besoin de métiers qui ont du sens et plus de, excusez-moi de l'expression, mais de bullshit job. Et donc ça, c'est une réponse qu'on peut apporter.
Dernière question, Soraya Mechtou, vous êtes membre de la direction de Génération. Pourquoi avoir fait le choix de soutenir Julien Bayou et le Rassemblement des écologistes plutôt que l'Île-de-France en commun d'Audrey Pulvar aux élections régionales en Île-de-France ?
Audrey Pulvar, ou même Clémentine Autain, ou même Benoît Hamon, puisqu'on aurait pu partir tout seul dans notre coin aussi, mais nous on est pour construire le rassemblement. Et c'est ce qu'on fait avec le pôle écologiste aujourd'hui, qui est la réunion de 5 formations politiques écologistes et qui soutiennent Julien Bayou pour l'élection régionale. Alors pourquoi Julien Bayou et pourquoi lui ? Parce que notre temps, donc déjà il y a cet objectif de rassemblement, mais aussi il ne vous aura pas manqué que notre temps, c'est le temps de la crise environnementale, c'est le temps de la crise sanitaire, c'est le temps de la crise écologique. Nous avons besoin de réponses urgentes, nous avons besoin d'alternatives, notamment dans une région diverse et pionnière nationalement, parce qu'on parle quand même de la région Île-de-France. Et donc cette région, elle a besoin d'une alternative qui mette l'environnement et l'écologie au cœur de ces politiques, l'écologie populaire, l'écologie qui rassemble, l'écologie au service des citoyens, une écologie jeune, une écologie inclusive, une écologie populaire, je vous l'ai déjà dit, et quelqu'un à sa tête qui soit déterminé à porter ses combats sociaux et environnementaux. Et moi, je ne vois personne d'autre qui soit mieux placé dans ce schéma-là que Julien Bayou.
Merci Soraya Mechtou. Je rappelle que vous êtes membre de la direction nationale de Génération, élue municipale de l'île Saint-Denis et candidate aux élections régionales en Seine-Saint-Denis pour les prochaines élections régionales donc de juin 2021. Merci.
Merci beaucoup Loïc Barrière.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.